What a wonderful sight. It just seems to be right that there's something to do.
Merry Christmas!
Legendary music producer Phil Spector was booked for investigation of murder today.
Hello, hello et joyeuses fêtes, vous écoutez Tabloïd sur Radio U, une émission sur les dessous de la musique. Aujourd'hui, nous avons un épisode plutôt spécial, une enquête sur Noël tout en musique. Alors, je sais bien qu'on se prépare à fêter le Noël le plus étrange depuis des décennies, mais pourquoi pas profiter de ces fêtes isolées pour apprendre comment Noël est devenu ce qu'il est maintenant. C'est ce que je vous propose pour la première partie de cette émission. On va apprendre un tas d'informations sur cette fête, dont une sorte de biographie du Père Noël, longue de 17 siècles, mais résumée en un peu plus de 5 minutes. Puis dans un deuxième temps, on va observer à la loupe le son particulier de la musique de Noël, les petites clochettes, les harmonies féminines, et explorer de plus près la vie de l'architecte de ce style, un certain Phil Spector. C'est notre producteur de la semaine, et celui-ci est autant connu pour ses tubes que pour sa cruauté. Et pour finir en se marrant un peu, je vais vous parler d'un drôle de phénomène chez nos amis d'Outre-Manche, un phénomène au cœur de la comédie musicale Love Actually, le Christmas Number One. Ça va être une bonne tranche d'humour, oh so British. Ah, Noël. J'avoue que j'ai eu de drôles de Noël dans ma vie. Un dans le désert de Bolivie au son de José Feliciano, un confiné par le verglas à Cardiff, un absurde Noël au Vietnam, un autre tragicomique à Londres au son de The Hives et Cyndi Lauper, et deux en tenue d'été et barbecue du côté de l'Océanie. Et ce n'est peut-être pas par hasard que je cherche des Noëls les moins Noëls possibles. Je vais être honnête avec vous, votre enquêtrice musicale n'a pas un point de vue totalement neutre sur le sujet de Noël. Monte. Mais je suis un véritable Grinch quand vient décembre.
Ils me sortent par le nez. Tu détestes ?
Tout me laisse perplexe dans cette fête. Le sapin, l'orgie consumériste, le mensonge du Père Noël.
Est-ce que c'est pas superflu tout ça ?
Papa !
Moi, je voudrais juste manger des bonnes choses avec ma famille et leur offrir des petits cadeaux attentionnés directement, sans passer par les services du Père Noël. Et puis, pourquoi au juste faire croire aux enfants qu'il existe un homme au pôle Nord qui peut exaucer tous leurs vœux ? Je ne comprends pas ! Alors, comment en est-on arrivé là ? Qui est le Père Noël ? D'où vient-il ? On sait tous qu'il est tiré du mythe de Saint-Nicolas et rendu rouge et blanc par Coca-Cola, mais son histoire est bien plus tortueuse que ça. Ce qui a commencé par une petite recherche sur les sapins de Noël il y a une semaine, s'est transformé en grosse enquête sur Noël à cause d'un podcast fascinant nommé Christmas Past. Et c'était tellement intéressant qu'il fallait que je partage avec vous mes trouvailles, même si ça veut dire que je parlerai un petit peu moins de musique cette fois-ci. Attention, attention! Are you ready? Voici l'histoire du Papa Noël en 7 minutes chrono. Alors, en gros, la légende du Père Noël, c'est comme une boule de neige qui commence par un seul flocon et qui, en roulant, amasse tout sur son passage. Cela commence en 270 avec le mythe de Saint Nicolas, un évêque de la Turquie actuelle. Ses deux parents sont emportés par la peste, mais non sans laisser un copieux héritage au petit Nicolas. Ayant pris pitié pour un veuf, père de trois filles, qui était beaucoup trop pauvre pour marier ses filles, et bien Saint-Nicolas vient discrètement déposer un sac d'or trois nuits durant dans la maison du nécessiteux. La troisième nuit, Saint-Nicolas est grillé par le veuf, mais le fait promettre de ne pas ébruiter l'histoire, disant qu'il s'agit du travail de Dieu. Il est humble, le Nico. Cette légende, et bien d'autres à son sujet, marque le début du mythe de Saint-Nicolas, qui sera sans cesse modifié pour créer le Papa Noël que l'on connaît maintenant. Alors, il y a trois rôles principaux, la protection, la générosité et la discipline. Or, dans la chrétienté, le fait de punir des enfants ce n'est pas tout à fait digne d'un saint. Donc on lui rajoute souvent un compagnon plus cruel, qui décide qui a été gentil et qui a été méchant. Comme le père Fouettard en France, par exemple. Et c'est d'ailleurs en France que commence, au XIIe siècle, la tradition de donner des cadeaux aux enfants pour la Saint-Nicolas, par des nonnes. Plus tard, au XVIe siècle, les protestants se séparent de l'Église catholique. Un des changements les plus importants est de ne plus vénérer les saints, y compris Saint-Nicolas. Mais en Allemagne et aux Pays-Bas, c'est principalement là que ça coince. Le peuple veut continuer à célébrer cette fête. Les Néerlandais ne se gênent pas. Ils continuent à fêter Sinterklaas, Saint Klaus, un diminutif de Nikolaus, qui deviendra plus tard Santa Claus. Waouh, qu'est-ce qu'on en apprend des choses. Les protestants allemands, eux, ont un autre plan. Ils décident de créer une nouvelle célébration qui ressemble à Saint-Nicolas, mais basée maintenant sur la naissance du petit Jésus, le 25 décembre. C'est une date qui a été décidée par les Romains en 354 pour remplacer la fête païenne du Sol Invictus. Comme quoi, une fête en chasse toujours une autre. Mais leur célébration New Age fait un flop. Changement de plan, maintenant Saint-Nicolas viendra donner les cadeaux le même jour que le petit Jésus. On est au XVIIe siècle et on a une esquisse de ce qu'est Noël maintenant. Mais c'est dans les siècles à venir, et surtout dans le melting pot culturel des États-Unis, que va vraiment se confirmer cette nouvelle fête. Et où va venir s'attacher des détails au personnage du Père Noël. Un Papa Noël de moins en moins catholique, car là est bien le but de la manœuvre. Et comme je vous disais, le Papa Noël, c'est comme une boule de neige à laquelle s'attachent des bribes de cultures variées. Au noyau du concept, on a les traditions hollandaises de Sinterklaas. Elles ont été répandues sur le nouveau continent et notamment à la Nouvelle-Amsterdam, prochainement New York, par les immigrants néerlandais protestants qui fuyaient la persécution de leur pays. Mais d'autres détails de d'autres cultures s'y ajoutent petit à petit. Par exemple, la robe d'évêque, ça le fait pas trop. Du coup, c'est en Allemagne qu'on le relook d'un manteau de fourrure brune et d'un chapeau assorti. Les reines du Père Noël et sa barbe blanche viennent du mythe scandinave d'Odin, un dieu norse qui se baladait dans le ciel avec des cheveux blancs la nuit du solstice d'hiver. Bon, chacun son kiff. Le sapin de Noël a une histoire tellement longue, de près de 4000 ans, que je ne peux que vous conseiller de lire un article, parce que je ne vais pas vous la résumer. Je laisserai le lien sur la page du podcast. Les oranges de Noël, elles, seraient plutôt ancrées dans la tradition catholique, car elles viendraient directement du mythe de Saint-Nicolas. Elles ressembleraient à l'or laissé aux veuves par Saint-Nicolas, enfin, de très loin, je trouve, quand même. His eyes, how they twinkled, his dimples, how merry. C'est dans les médias américains que se cristallise une certaine image du Père Noël. En 1823, dans un poème illustré, on le voit pour la première fois avec des rennes, une luge et une pipe. Mais il est nain comme un elfe, une qualité qui expliquerait peut-être comment il passe par la cheminée. Puis plus tard, la révolution industrielle permet d'acheter des cadeaux fabriqués à grande échelle, de plus en plus nombreux. Et dès lors, les enfants ne sont plus les seuls à recevoir des cadeaux. Ce changement de volume explique peut-être l'apparition d'une armée de lutins à ses côtés, exploités à la chaîne dans une usine du pôle Nord. Oh, c'est d'un cynisme tout ça quand même. La boule de neige continue son chemin dans les médias américains et entre en collision avec un certain géant du soda. nous voilà en 1931, un dessinateur publicitaire nommé Evan Sunblom est missionné par Coca-Cola afin de créer deux affiches de Noël. Elle rencontre un tel succès qu'il va faire ça chaque année pendant plus de 30 ans, transformant l'image du Papa Noël à tout jamais. Enfin, à tout jamais, je suis pas sûre de pouvoir le dire, parce que connaissant le phénomène, il devrait encore changer un peu. Mais nous voilà au Père Noël que l'on connaît, en manteau rouge et blanc, qui emmène des jouets par milliers sur son traîneau tiré par des rennes. Il est intéressant de noter que le Père Fouettard n'a pas suivi Santa Claus à New York, et donc le Père Noël américain n'est pas du tout là pour discipliner les enfants. Mais très longtemps en France, on est resté sur les traditions catholiques à Noël, donc plutôt messe de minuit et les fameuses oranges de Noël dont nos amis baby boomers nous parlent sans cesse.
5h30, on se levait, on allait voir la gaillotte. Oh, on y trouvait une oranche.
C'est la mondialisation finalement qui a imposé une certaine version de Noël, celle des protestants hollandais new-yorkais, afin de nous faire acheter toujours plus.
Peu, ces étrennes ont été offertes le 24 décembre. Et les magasins ont transformé ces étrennes en cadeaux de Noël. Mais si vous voulez, c'est vraiment une invention commerciale à ce moment-là.
Alors bon, après cette enquête pleine de rebondissements, j'oublierai presque ce côté matérialiste qu'a pris Noël dernièrement. Il est bon de se rappeler que le 24 décembre au soir est célébré depuis des millénaires finalement. Bon, après ça, retour à la musique avec Last Christmas de Wham. Alors, ironie du sort ou beauté de la vie, l'interprète principal de ce titre, le fantastique mais troublé George Michael, est décédé le jour de Noël il y a 4 ans. Rest in peace, George.
Yes.
c'était Wham avec Last Christmas sur Radio U. Vous écoutez Tabloïd, une émission sur les dessous scandaleux de la musique. Et aujourd'hui, nous faisons une petite émission spéciale Noël. On va maintenant explorer l'histoire de la musique de Noël plus précisément. Et alors, quand est-ce que la musique de Noël est-elle apparue ? Eh bien, on n'a pas attendu George Michael pour ça, bien évidemment. Les chants de Noël prennent leurs origines dans la tradition catholique dès la création de cette fête au 4e siècle. On peut compter par exemple Jésus Refulsit Hominum, que beaucoup citent comme le premier vrai chant de Noël. Mais la plupart des classiques, comme Il est né le divin enfant, qu'on a écouté tout à l'heure, et Douce nuit, sainte nuit, ont été écrits pendant la période victorienne entre la fin du 18e et le 19e siècle. Dès le début de l'industrie de la musique, les disques de Noël et leurs partitions sont ceux qui vendent le plus d'exemplaires. L'industrie du disque s'intéresse bien évidemment à la manne financière que peut représenter Noël, et les années 30, 40 et 50 sont les années les plus prolifiques pour la musique populaire inspirée de Noël, avec par exemple White Christmas de Bing Crosby, ou encore en 1946, sort Petit Papa Noël, chanté par l'inoubliable Tino Rossi. Elle est écrite pour le film Destin et reprend la mélodie d'une chanson écrite durant la guerre où un petit garçon prie pour que son papa revienne d'Allemagne. Suite à un imprévu, Tino Rossi se retrouve à réécrire les paroles de cette chanson à la va-vite.
Et je dis, mais je suis très embêté, je raconte mes histoires à tout le monde. Il y avait Audi Fred, qui est mort maintenant, qui était mon impresario à l'époque, qui dit « Mais dis donc, si tu lui jouais, petit papa Noël ?» Alors, « Ah oui, vous croyez ?» me dit Fantini. Je dis « Écoutez, jouez-le toujours, on verra bien. »
Il enlève toute allusion à la guerre et petit papa Noël est né. Ce titre est, avec ses 80 millions de disques vendus, le plus grand succès commercial de la chanson française, en France comme à l'étranger. Et c'est aussi le premier disque d'or de toute l'histoire dans l'Hexagone. Ce n'est pas rien. En 1957, c'est à Elvis Presley de renverser les codes du genre, en reprenant certains classiques dans son album de Noël. Alors on peut compter par exemple Silent Night, qu'on a écouté il n'y a pas longtemps, et White Christmas de Bing Crosby. Mais aussi Santa Claus is Coming to Town, une chanson qui date quand même de 1933. Le disque est un succès indéniable, même s'il froisse un petit peu l'establishment avec ses chansons remixées à la sauce rock'n'roll. Ses rééditions constantes pendant des années rencontrent le même succès. Il est d'ailleurs toujours l'album de Noël qui a vendu le plus d'exemplaires au monde. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans ce disque, on ne compte que deux chansons totalement originales, Santa Bring My Baby Back et Blue Christmas, noyées dans des reprises de classiques. Mais cela est vrai pour la plupart des albums de Noël qui ont été enregistrés depuis. Bonnie M, par exemple, Frank Sinatra, Donna Summer, les Beach Boys, James Brown ou même Ariana Grande et Justin Bieber. On retrouve sur ces disques une setlist intemporelle agrémentée de ce qui est cool à ce moment-là. Par exemple, en mode disco en 1978 avec Bonnie M qui nous envoie en Jamaïque fêter la nativité avec une reprise de Harry Belafonte. Mais ce qu'on remarque, c'est que Noël étant ancré dans des traditions lointaines, il est quasiment impossible de créer un nouveau canon du genre. Seulement deux artistes ont réussi à le faire ces 40 dernières années. Wham avec Last Christmas et Mariah Carey avec All I Want For Christmas Is You. Alors qu'est-ce qu'ont ces deux chansons en commun ? Les petites clochettes et une ode à un amour perdu peut-être. Oui, mais ils tiennent surtout leur inspiration et leur recette d'un gars qui avait tout compris à Noël, le producteur torturé Phil Spector. Et pour se mettre dans sa tête avant de commencer ce petit segment producteur de la semaine, je vous propose d'écouter un de ses plus gros succès, hors Noël, immortalisé dans Dirty Dancing. Et on écoute Be My Baby des Ronettes. Alors vous écoutez Tabloïd sur Radio U, une émission sur les dessous scandaleux de la musique. Et vous ne serez pas en reste avec notre producteur chelou de la semaine, Phil Spector. Alors celui-là, il tient vraiment le pompon. Vous vous souvenez peut-être de sa tête de fou lors de son procès très médiatisé en 2007. Il faut savoir que le petit Phil n'a pas eu la vie facile dans son Bronx natal. Chétif, maladroit socialement et de confession juive, il a souvent été malmené par les colosses de son quartier. Mais il décide de prendre sa revanche en excellant dans la musique. Et à l'été 1963, à l'âge de 24 ans, Phil Spector est au sommet de sa gloire avec sa propre écurie, ambassadrice des girl groups et du doo-wop. Ses vedettes chantent la détresse amoureuse avec des voix d'une puissance renversante. En 1963, le son spectorien est sur toutes les ondes. C'est à ce moment que Phil Spector décide de jouer au jeu de l'album de Noël. Il réunit tous les artistes de son écurie en plein cagnard estival. Et ensemble, ils créent A Christmas Gift For You From Phil Spector. Une compilation de classiques de Noël revisités avec une chanson totalement originale. On voit déjà le trip mégalomane pointer son nez dans le titre de l'album, soit dit en passant. Mais alors, qu'est-ce qui fait le son distinctif de Phil Spector? Eh bien, on en a parlé la dernière fois avec ABBA. Mais si, souvenez-vous du mur du son, The Wall of Sound. C'est cette superposition de pistes de voix et d'instruments qui a révolutionné la pop et qui inspire toujours les artistes de maintenant d'ailleurs. Eh bien, Phil Spector en est l'architecte. Avec lui, Santa Claus is Coming to Town passe de ça avec Elvis. Ah ça, chanté par The Crystals. Et c'est cette version qui sera reprise par un tout petit Michael Jackson en 1970 et par les Jackson 5 pour nous donner la chanson de Noël la plus funky de tous les temps. Tellement funky qu'une fois en Nouvelle-Zélande, j'ai perdu le contrôle de mon nouveau véhicule en la chantant à tue-tête et j'ai failli glisser dans un lac. Bon, plus de peur que de mal, mais cette chanson m'est désormais interdite en voiture. Pour Noël, la recette de Spector est simple. On superpose plein de voix comme d'hab, mais on rajoute des cloches, des clochettes, des percussions et des cordes en cascade. Motif qu'on retrouve chez Mariah et chez George Michael d'ailleurs, et tous ceux qui ont essayé de faire de la musique de Noël depuis. L'album A Christmas Gift for You from Phil Spector ne rencontre pas le succès escompté parce que, pas de chance, il est sorti quelques jours après l'assassinat de Kennedy. Et timing, mais l'album a été réédité maintes et maintes fois et est considéré pour beaucoup de mélomanes comme le meilleur album de Noël. La seule composition originale, Christmas Baby Please Come Home, interprétée par Darlin' Love, est même devenue un standard depuis. Mais Phil Spector, malgré ses nombreux succès, cherche toujours à faire mieux. Il a peur de devenir has-been, il trouve qu'on ne lui donne pas assez d'attention, qu'il mérite totalement pour son génie musical. Il est parano, possessif, cruel, et il agite ses flingues en plein studio pour asseoir sa supériorité. Et de temps en temps, il séquestre même ses invités dans sa maison. Et c'est une tendance qui ne va pas aller en s'améliorant.
Legendary music producer Phil Spector was booked for investigation of murder today.
Il est arrêté à son domicile, qu'il appelle le château, pour le meurtre de Lana Clarkson, une ancienne actrice. Phil Spector proclame son innocence, disant que c'est une mauvaise manœuvre, avec un de ses pistolets qui aurait tué la pauvre Lana. Il purge toujours actuellement une peine de 19 ans de prison pour son meurtre. Mais après son arrestation, les langues se délient. Et beaucoup sont les artistes qui peuvent témoigner d'avoir été séquestrés dans le manoir glacial de Phil, entouré par ses collections d'armes, après avoir accepté une invitation innocente pour un verre. Blondie témoigne dans une interview que Spector l'a menacé subtilement en mettant une arme dans sa botte. Elle raconte aussi que ses potes des Ramones ont fait face au caractère explosif et au canon du pistolet du producteur. Leonard Cohen, lui, s'est fait enfermer un mois en 1978 pour écrire un album avec Phil, qui aurait dit « Maintenant qu'on est coincé ici, autant composer de la musique ». Cohen a sévèrement renié cet album depuis, ayant détesté son expérience au château. Surtout qu'il a dû porter un manteau pendant tout, et c'est ça dont il se plaint principalement. Ils ne se sont plus jamais parlé depuis. John Lennon, lui aussi, a eu des démêlés avec Phil, pour l'enregistrement de son album Rock'n'Roll. Un album de reprise de classique remis au goût du jour avec le fameux Wall of Sound spectorien. Un jour, Phil Spector, complètement bourré et déguisé en chirurgien, aurait tiré une balle très proche de l'oreille de John, lui donnant des acouphènes. L'ancien Beatles aurait dit « Bon, écoute Phil, si tu veux me tuer, tue-moi, Mais fais pas le con avec mes oreilles, j'en ai besoin. Plus tard, Phil a disparu pendant des mois avec tous les enregistrements de l'album, laissant un goût amer dans la bouche du Beatle. D'ailleurs, seul George Harrison semblait vraiment s'entendre avec Phil Spector. Je ne sais pas ce que ça laisse présager sur la personnalité du plus jeune garçon dans le vent. Mais celle qui a souffert le plus de la folie paranoïaque du producteur, c'est une de ses premières protégées, l'ancienne chanteuse des Ronettes, et sa femme pendant 6 ans, Ronnie Spector. Dans ses mémoires, elle raconte comment elle a été abusée psychologiquement par son mari hyper jaloux. Il ne la laissait jamais sortir, il lui avait même confisqué toutes ses chaussures pour éviter qu'elle sorte. Encore pire, les seules fois où elle a pu utiliser la voiture, Phil exigeait qu'elle mette un mannequin de lui à taille réelle sur le siège passager. Et il lui a offert aussi des enfants adoptifs pour Noël, sans la consulter d'abord, afin de la garder femme au foyer. Il l'empêche de se produire sur scène, sabote sa carrière et l'éloigne de tous ses proches. Elle a fini par s'enfuir pieds nus en pleine nuit à l'aide de sa mère pour mettre fin au mariage. Si l'histoire de Ronnie Spector vous intéresse, sachez qu'un biopic tiré de ses mémoires devrait sortir prochainement au cinéma, si Corona le veut, avec la chanteuse actrice Zendaya comme actrice principale. Et maintenant, pour finir notre histoire de la musique de Noël sur une note un peu plus amusante que les antiques du psychopathe Phil Spector, tournons-nous du côté de nos amis britanniques pour observer un phénomène hilarant, celui du Christmas Number One. Mais avant ça, écoutons le dernier hit de Noël avant que cette folie commence. Le Christmas Number One de 1971, c'est un titre contestataire de la guerre du Vietnam, écrit et composé par John Lennon
et Yoko Ono,
et produit par Phil Spector, bien évidemment.
Merry Christmas.
Vous écoutez Tabloïd et on continue la petite histoire de la musique de Noël. Nous nous intéressons maintenant au phénomène des Christmas Number One au Royaume-Uni, de 1973 à nos jours. Peut-être que vous l'ignorez, mais j'ai passé la plus grande partie de ma vie adulte de l'autre côté de la Manche, à Cardiff puis à Londres. Donc laissez-moi vous dire que les premières expositions que j'ai eues à la musique de Noël ont été Newport Beach.
A little something that I like to call Chrismica.
Puis les Noëls à Cardiff où la musique à clochette était omniprésente. Dans les magasins, les bars, les ascenseurs et surtout dans les Christmas parties, ces fêtes organisées en fin d'année par les employeurs pour remercier leurs équipes. Loin, loin de notre innocent arbre de Noël, celles-ci sont beaucoup moins kid-friendly. Pour mon tout premier boulot, je travaillais comme serveuse dans un hôtel à Cardiff qui en accueillait deux ou trois chaque semaine pendant un mois. Et j'en garde des souvenirs indélébiles. J'y ai vu des choses de dingue, des gens qui tombent, des gens qui pleurent, des situations impossibles, le tout rythmé par une même playlist des Christmas Number Ones en boucle. Ça m'a temporairement donné envie de ralentir ma consommation d'alcool et de ne plus jamais écouter la fameuse playlist du DJ. Mais rien à faire, elle est partout. Et pourquoi ? Eh ben, parce que cette playlist regroupe tous les titres qui ont réussi à se hisser en haut du classement le jour le plus important de l'année, le 25 décembre. Le jour où cette douce folie britannique s'empare des charts pour une guéguerre hilarante. En effet, chaque année, les British se ruent dans les bacs la semaine de Noël pour acheter un single afin de voter, en quelque sorte, pour le titre qu'ils soutiennent. Chaque bond dans le classement est copieusement relayé par les médias. Et même les bookmakers acceptent les paris sur ce qui arrivera premier le jour de Noël.
Ce Noël de votre single, l'amour est partout.
Ah, sauf qu'il y a une petite modification dans les paroles. L'amour est devenu Noël.
Ah tiens, oui.
Ça, c'était un extrait de la comédie romantique Love Actually, dans laquelle on retrouve 1000 intrigues différentes. Mais sûrement la plus drôle d'entre elles est celle d'un chanteur has-been interprété par le génial Bill Nighy qui se retrouve à remixer son plus gros succès pour atteindre le Christmas Number One. Il dit lui-même que c'est de la grosse merde.
Ah ouais, c'est bon, Mikey, vous savez aussi bien que moi que c'est une énorme daube. Mais ne serait-ce pas génial si le numéro 1 à Noël cette année, ce soit pas un jeune merdeux arrogant, mais un vieux comme moi, ancien toxico qui cherche à faire son comeback à n'importe quel prix, hein?
Alors pourquoi cette fascination pour les charts ce jour-là? Eh bien, tout a commencé par deux groupes rivaux plutôt méconnus par ici, Wizard et Slade, en 1973, qui sortent chacun un titre spécial Noël pour atteindre le numéro 1, le jour de Noël. Et c'est Slade qui a décroché le prix, et j'en suis ravie car j'adore cette chanson depuis qu'elle a été reprise pour l'épisode de Chris Mouka. Les vrais fans reconnaîtront, surtout les fans de ma génération. Depuis, beaucoup d'artistes se sont pris au jeu, plus ou moins volontairement. On a eu des interprètes reconnus, des chorales caritatives, des titres fantasy comme Bob le bricoleur, une ode à des saucisses enroulées de pâte feuilletée deux fois, des gens qui avaient rien à faire là comme Gary Jules en 2003, ou bien Nicole Kidman en 2001 avec Robbie Williams. Mais on retrouve aussi des icônes comme Queen qui détient deux Christmas Number One avec le même titre. C'était Bohemian Rhapsody en 1975 à sa première édition et en 91, un mois après la mort de Freddie Mercury. Mais voici quelques combats notoires que nous a offert cette guéguerre mercantile. Number One, Boney M versus the Village People. En français, Boney M et les Village People. Quand même, avec un top comme ça le jour de Noël, on ne devait pas boire que de l'eau en 1978. Ce combat au sommet du disco a vu gagner Boney M qui venait d'enchaîner 8 numéro 1 cette année. Rien n'aurait pu les arrêter, pas même un flic, un indien, un cow-boy, un soldat et un ouvrier du bâtiment. Si vous avez manqué mon enquête sur Boney M, je vous conseille d'écouter le premier épisode de ce podcast car il démonte efficacement le mythe Boney M. George Michael versus himself. En 1984, George Michael se battait contre lui-même avec Last Christmas de Wham et sa collaboration avec Band-Aid pour Do They Know It's Christmas. Ce méga single caritatif réunit George Michael, Bono, Sting, Phil Collins et Boy George entre autres pour réunir des fonds pour mettre fin à la famine en Éthiopie. Et c'est ce single qui rafle la mise, mais il est bon de savoir aussi que les royalties de Last Christmas allaient être offertes pour la même cause. Mariah Carey versus East 17. Mariah Carey contre East 17. Là, on a un combat entre une diva de la pop et un boys band totalement inconnu en dehors des îles britanniques. Mais à la surprise générale, ce sont ces derniers qui ont gagné. Mais Mariah Carey a eu quand même sa revanche depuis, puisque le titre est le plus écouté chaque année à cette période. Elle était même number one l'année dernière au Billboard américain devant toutes les starlettes actuelles de la pop. Simon Cowell versus the rest of the world. Simon Cowell contre le reste du monde. Toutes ces rivalités festives au sommet des charts anglais ont été entachées par un seul et même homme, Simon Cowell. Producteur de pop manufacturé, genre boys band et girls band, et star de la télé-réalité connue pour son jugement sévère. Avec l'avènement des émissions comme The Voice et Popstars,
quadricolore, ils sont quatre couleurs primaires.
Depuis 2004, eh ben, c'était plutôt les gagnants de X Factor qui décrochaient le number one de Noël à chaque fois, vu que la saison s'arrêtait en décembre. Ça a le don d'énerver certains Britanniques qui ne veulent pas voir la tradition du Christmas number one disparaître. Un certain John Mortor, un DJ fan d'Iron Maiden, décide de commencer une campagne sur Facebook pour afficher son mécontentement. Il choisit un titre bien loin du son des clochettes de Phil Spector. Il encourage tous ceux qui veulent se révolter contre Simon Cowell et ses consorts a téléchargé massivement un titre contestataire datant de 1993. La campagne fait boule de neige, près de 500 000 personnes vont télécharger le titre afin d'écraser le poulain de Simon Cowell, Joe McElderry.
So the Christmas number one single in the UK for 2009, first revealed on BBC Radio 1, is Rage Against the Machine and Killing in the Name.
Et donc en 2009, le Christmas Number One au Royaume-Uni est un titre pas du tout de Noël qui répète sans cesse « Va te faire foutre, je ne vais pas faire ce que tu me dis ». Et qui démonte notre société de consommation comme peu l'ont fait auparavant. Et c'est là qu'on voit quand même l'humour british dans toute sa splendeur. Et si la musique de Noël est partout dans les magasins et qu'elle ait même réussi à se frayer un chemin en France, ce n'est pas si surprenant. C'est qu'elle fait vendre.
Si la musique ne servait pas à un rôle, il ne la jouerait pas,
dit Peter Christensen, chercheur en médias à l'université de Portland, Oregon. Elle rappelle aux gens qu'il faut qu'ils fassent leurs achats de Noël et les incite à acheter certaines choses en cadeau qu'ils n'auraient pas forcément acheté sans l'incitation musicale. En 2020, il ne reste que très peu du mythe de Saint-Nicolas, protecteur, généreux et disciplinaire. Le but de Noël est surtout de consommer sans bride pendant quelques semaines. Et certes, c'est bon pour l'économie, mais c'est bien loin de la vraie morale de la vie de Nico. Sa morale à lui, c'était d'être généreux, d'aider les gens dans le besoin sans contrepartie, pas même un merci ou un like sur Insta. Et on en aurait bien besoin de ça en ce moment. Mais aux milliers d'entre vous qui offriront des cadeaux à des enfants au nom du Père Noël cette année, dites-vous que cet argent dépensé anonymement vous rapproche un petit peu plus de la bonté de Saint-Nicolas. Ceci dit, je ne suis pas sûre que faire croire aux enfants qu'il existe un homme en Finlande qui peut tout leur donner sur leur liste, s'ils sont sages, soit une si bonne idée que ça. Les enfants ne savent pas qu'il faut aligner leur budget sur celui de leurs parents et non pas celui d'un homme rouge et blanc qui vole et qui a le don d'ubiquité en plus d'une armée de lutins à son service. C'est absurde et ça ne fait que creuser les inégalités entre les enfants et mettre certains parents en grosse difficulté financière. Dans ces temps difficiles, offrons-nous des petits cadeaux attentionnés, de l'amour et des repas qui ne finissent pas en eau de boudin. C'est tout ce que je vous souhaite et bien plus encore pour ce Noël 2020. En tout cas, nous, on se revoit dans un mois, le 18 janvier, pour une autre enquête au pays de La La Land. Vous pouvez retrouver ma propre playlist de Noël sur le site de Radio U, sous ce podcast. Et si vous ne savez pas quoi regarder pendant ces fêtes socialement distantes, je vous conseille la série de Noël complètement barrée, Happy, où on retrouve Christopher Meloni de New York Unité Spéciale en train de zigouiller des gens sur Sleigh Bells des Ronettes. Attention, ce n'est pas pour les enfants. Vraiment pas du tout pour les enfants. Et je vous laisse sur Christmas is going to the dogs, interprété par The Hills, qui reprend tous les codes spectoriens. Une chanson écrite pour le film Le Grinch en 2000 et qui pourrait être traduite par Noël est laissé au chien comme un os dont on aurait mangé toute la viande. Mr. E, le chanteur oh so fascinant de The Hills, se plaindrait-il de la détérioration de Noël par les forces consuméristes? Who knows? Allez, joyeux Noël! And a happy Christmas to you!
Get off your sled and go to bed, don't you ever tire. Throw a bone, I'm finally home, curled up by the fire. Snow is falling from the sky like ashes from an urn. Sweet dreams, my little one, now it's my turn. Well, Christmas is going to the dogs. Rather have two toys than your logs. And things aren't looking very good, it's true. So I'll just lay here and chew. Now when I sleep, I like to dream of rabbits in the snow. Jumping right into my jaws from their rabbit hole. Take one home and set him down right next to your shoes. Wake up to a big surprise, my gift to you. And Christmas is going to the dogs. We'd rather have two toys than you logs. Looking very good.
scarfing down the turkey and egg rub. And things are looking very good, it's true. So I'll just lay here and chew. So I'll just stay here.